Chers amis, nous avons l'habitude dans nos lieux de dire que nos églises sont des églises de pierre vivante. Et nous avons raison de le penser. Mais bien évidemment, nous pensons aussi à ces églises qui sont faites de pierre de taille. Et nous sommes tous et toutes touchés par ce qui s'est passé Notre-Dame hier soir. Et je tiens au nom de notre église à dire à la communauté catholique à quel point nous sommes touchés, à quel point nous sommes solidaires. C'est peut-être aussi l'occasion de nous rappeler la dimension symbolique de nos lieux de culte, églises, temples, mosquées, synagogues, qui ne sont pas simplement des lieux pour la communauté particulière qui est accueillie dans chaque lieu. Ce sont des maisons de Dieu au sens très universel du terme. C'est la raison pour laquelle ce soir nous sommes toutes et tous les bienvenus ici même, dans ce temple de la rue de Maguelone, tout comme nous savons que nous sommes les bienvenus dans les autres lieux de culte de notre agglomération. Et il est bon de pouvoir célébrer ensemble cette fraternité qui se dit parfois en creux, de manière tragique, dramatique en tout cas, comme ce fut le cas à Paris, et puis de manière peut-être plus positive, comme c'est le cas ici même, ce soir. Alors, réjouissons-nous de cette fraternité qui parfois s'exprime dans les larmes, qui souvent s'exprime dans les sourires, et levons-nous pour chanter Dieu. Je vous propose de prendre votre recueil de chants au psaume 36. Nous chanterons les strophes 1 et 2 du psaume 36, qui nous permet de chanter la fidélité de Dieu à travers le temps, mais aussi à travers l'espace et non à travers les communautés. Psaume 36, au Seigneur ta fidélité, les strophes 1 et 2. Restons debout pour louer Dieu avec quelques accents de la spiritualité juive. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde, dont la parole fait descendre les soirs, dont la sagesse ouvre les portes du ciel, dont l'intelligence change les moments et remplace les temps. Toi, qui ordonnes les étoiles à leur place dans l'immensité de ta volonté. Tu crées le jour et la nuit. Tu écartes la lumière devant l'obscurité et l'obscurité devant la lumière. Tu fais passer le jour et venir la nuit. Tu sépares le jour et la nuit. L'Éternel Sebaoth est son nom. Dieu qui vit, qui existe toujours et qui, sur nous, règnera toujours pour l'éternité. Béni sois-tu, l'Éternel, qui fait descendre les soirs. Amen. Je vous invite à prendre place. Avant d'ouvrir la Bible, nous allons nous recueillir, accompagnés par l'ordre qui va nous introduire dans la méditation. C'est dans le livre du Deutéronome que j'ai retenu quelques versets pour notre méditation ce soir. Au chapitre 30, les versets 11 à 20 font partie de ces dernières paroles que Moïse donne au peuple et qui sont pour lui une façon de transmettre l'expression de la volonté de Dieu pour le peuple qui va entrer en terre promise. Voici donc ce qui est dit au nom même de Dieu. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous ira chercher ?»« Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Chers frères et sœurs, le christianisme se trompe s'il cherche à opposer d'un côté le Dieu juste de l'Ancien Testament et de l'autre côté le Dieu bon du Nouveau Testament. Ou encore le Dieu qui punirait dans l'Ancien Testament et le Dieu qui aimerait dans le Nouveau Testament. Et ce passage de Deutéronome, qui met en scène le personnage majeur, qui est Moïse, figure symbolique de la Torah, de la divine instruction confiée au peuple, révèle que Dieu est bon, qu'il est amour dans l'un et l'autre testament. L'un et l'autre testament qui rend le témoignage à l'Éternel. Point. Et cela, je dirais, se conçoit en vertu de la thématique qui parcourt toute la Bible hébraïque, l'Alliance. Le regard protestant sur la Torah et sur la Bible hébraïque, c'est peut-être que l'élément constitutif n'est pas tant la Torah que l'Alliance. L'Alliance passée entre l'Éternel et Israël est une affaire de proximité, et nous le comprenons bien ici même. Nous entendons parfaitement dans ce passage le cœur de l'Alliance, les commandements, les mitzvot, sont à portée de main. Ils ne sont ni au ciel, ni de l'autre côté de la ligne de tramway, inaccessibles, hors de portée, impraticables. L'Éternel est un Dieu qui rend la vie accessible à tout un chacun. À l'inverse d'un Dieu qui serait un peu pervers quand même, qui nous mettrait toujours dans des situations impossibles pour nous rendre dépendants de lui, l'Éternel fait alliance avec nous pour nous rendre autonomes. La Torah et nous autres nous sont donnés pour que nous en fassions bon usage nous-mêmes, personnels. Non pas pour être dépendants d'un Dieu qui serait en quelque sorte notre tuteur, mais pour que nous puissions mener notre propre existence. Les paroles qui sont utiles pour la vie nous sont données. Il n'y a pas de rétention d'informations. Elles sont là, à la disposition de chacun. Il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie pour acheter une Bible et entendre des paroles qui nous aident à vivre, qui nous aident à comprendre ce que vivre signifie. Et ces paroles sont mises dans notre bouche, dans notre cœur, à chaque fois que nous faisons la lecture, notamment la lecture à plusieurs, dans un office synodal, dans un culte dominical, dans une messe, le vendredi lors de la prière. Elles sont mises dans notre bouche et notre cœur pour que nous puissions les pratiquer. Non pas pour qu'elles restent là comme une sorte de vestige archéologique qu'il faudrait entretenir soigneusement et qui n'aurait aucune influence ni aucun impact sur notre vie personnelle. Dieu est un pédagogue qui nous permet de nous placer dans une situation de réussite. Non pas nous donner des choses impraticables qui nous mettront toujours en échec et qui nous rendront nécessairement soumis à une grâce qui nous relèvera, mais un Dieu pédagogue qui nous donne les moyens de pouvoir réussir notre vie. On va vous dire, les versets 17 et 18 sont indiqués que si nous n'obéissons pas à la parole divine, nous serons non seulement punis, mais châtiés. Ce qui laisse entendre quand même les traces d'un Dieu qui pourrait être un peu perverse. Si nous n'obéissons pas, ou si nous nous mettons à adorer d'autres dieux, nous périrons, disent ces deux versets. Évidemment, pris isolément, on peut penser que c'est comme cela qu'il faut comprendre ces versets. Et il pourrait faire penser que Dieu punit ceux qui ne lui obéissent pas Et c'est peut-être cela qui a pu faire penser que le Dieu dont il est question dans la Bible hébraïque est colérique, vengeur et une sorte de justicier impitoyable. Mais ce serait alors ignorer la suite des récits bibliques. Et ce serait manquer d'observer ce qui se passe lorsque le peuple, effectivement, désobéit et enfreint l'alliance. Les livres prophétiques sont exemplaires à cet égard. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, pour ne citer que les livres les plus développés. Ils témoignent d'un Dieu véritablement miséricordieux, qui pardonne à Israël, qui rassemble un peuple dispersé, qui ramène un peuple égaré, qui renouvelle l'alliance, qui réconcilie et redonne de nouvelles raisons d'espérer. Si je voulais tirer un peu la couverture à moi, je dirais que l'alliance, c'est l'évangile, présent en contrepoint d'une Torah qui pourrait être présentée comme une loi implacable, impitoyable, une sorte de morale à laquelle il faut se soumettre aveuglément. Autrement dit, ces versets 17 et 18 ne sont pas prescriptifs. Ils sont descriptifs. Ils ne disent pas ce que Dieu va faire si nous n'écoutons pas sa parole. Ils disent ce qui va se passer si nous restons sourds à sa parole, qui est une parole qui encourage, qui favorise sa vie. Je le dis autrement et plus clairement. Si nous sommes sourds à la parole de Dieu, qui vivifie, si, en quelque sorte, nous refusons de tenir compte de ces conseils offerts par des personnes pétries d'une expérience de plusieurs centaines d'années, si nous ne voulons n'écouter que notre petite voix intérieure, alors nous infligerons nous-mêmes notre punition en n'ayant pas une vie à la hauteur de l'espérance de Dieu. Ces deux versets ne disent pas ce que Dieu va faire si nous désobéissons. Ces deux versets disent ce qui va nous arriver si nous désobéissons. Une personne qui refuserait d'écouter les conseils avisés d'un autre, qui veut lui faire profiter de son expérience, serait dans le cas d'une vie en sous-régime, d'une vie dégradée. Voilà ce que disent ces versets. Alors si l'Alliance nous donne accès à des paroles qui structure notre existence, si l'alliance, nous venons de le voir, est aussi une dynamique de pardon, il importe de prendre conscience que l'alliance nous oriente vers la vie. Et je dirais que l'alliance consiste à promouvoir inlassablement une pulsion de vie. Contre toutes les pulsions de mort qui parfois nous tentent bien, ou en tous les cas nous traversent, il peut y avoir même des fois des pulsions assez morbides devant des spectacles tragiques. Eh bien, cette alliance nous permet de revisiter toutes les pulsions qui nous habitent pour les orienter à nouveau vers la vie et ce qui fait vivre. C'est pour que tu vives, toi et ta descendance, que Dieu fait alliance avec toi. C'est pour que tu sois attiré par ce qui favorise la vie que Dieu fait alliance avec toi. C'est pour que tes choix soient inspirés par ce qui fait vivre, que Dieu fait alliance avec toi. Et dans une semaine où les chrétiens célèbrent Pâques, Vendredi Saint inclus, il est nécessaire de rappeler que Dieu favorise toujours ce qui conduit à la vie. Cela nous permet de rappeler que Dieu conduit à la vie et non à la mort, pas même à la mort sur une croix. Et continuons en disant qu'il est nécessaire, par conséquent, dans le cadre d'une telle semaine, de dire qu'il est tout à fait abject de considérer qu'Israël, le peuple de Dieu, serait dans une perspective homicide ou déicide. Quelle erreur fondamentale de l'histoire chrétienne d'avoir pu penser et proclamer cela. La foi en l'Éternel stimule les croyants, quel que soit le nom qu'ils donnent à leur croyance et quel que soit le nom qu'ils se donnent, qu'ils s'identifient juifs, chrétiens, musulmans ou par d'autres dénominations encore. L'alliance c'est ce qui stimule chacun de façon à ce que chacun soit profondément animé par la vie et que chacun puisse rejeter massivement ce qui est mortel, ce qui détruit l'existence, ce qui abîme l'histoire. L'Alliance favorise la pollution de vie contre tout ce qui défigure le monde. L'Alliance, c'est ce qui nous permet de ne jamais avoir une espérance défaillante, mais de pouvoir reprendre courage et de faire face à ce qui nous arrive. Être croyant, c'est adhérer à une divine pulsion de vie, et c'est la célébrer, selon les usages qui sont propres à chacun, selon les traditions spécifiques, et finalement, l'Alliance, c'est ce qui nous permet de découvrir que nous sommes capables de faire cela ensemble. Oui, célébrer ensemble la vie, cela est à notre portée. Amen. Unissons-nous dans la prière. Éternel, mon Dieu, depuis toujours tu chemines avec nous. Tu es l'ami de nos jours de soleil et de nos nuits de brouillard. Et jamais tu ne nous abandonnes. Tu es la lumière qui nous éclaire, même au cœur des ténèbres. Tu es la source qui rafraîchit, qui coule en nous, qui nous redonne la vie, qui réinstaure une pulsion de vie lorsque c'est nécessaire. Ton amour pour nous est si grand que même la mort ne t'arrête pas. Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle. Donne-nous, Éternel, sur notre route, d'oser vivre de ta parole, celle qui donne la vie, celle qui ressuscite la vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui pousse les ténèbres hors des limites, celle qui met l'homme debout. Donne-nous, Éternel, sur notre route, d'oser partager ta parole avec humilité et vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir une bénédiction qui nous vient du livre des Nombres. Encore un peu de Moïse. L'Éternel nous bénit et nous garde. L'Éternel porte sur nous son regard et nous accorde sa grâce vers nous. Il tourne sa face et nous donne sa paix. Amen. Et comme en France, tout finit par une chanson, je vous propose de chanter encore le cantique 243 cette fois, la première strophe du cantique 243.